Dimanche dernier, Léo nous a conduit dans sa présidence à nous réjouir, à être joyeux dans notre espérance. Le texte que nous allons lire commence avec deux hommes attristés et qui vont se retrouver totalement réconfortés et joyeux suite à leur rencontre avec Jésus. J'ai choisi aujourd'hui de m'appuyer sur un passage très connu et qui a fait l'objet de nombreuses prédications et commentaires, mais qui me parle et peut vous parler beaucoup, je suppose. Alors, je ne sais pas, je vous pose une devinette. Peut-être que vous avez trouvé de quoi il s'agit. Sur le chemin d'Emmaüs? Oui, c'est ça, Bernard. Je vois que tu as bien suivi. C'est donc dans l'évangile de Luc, au chapitre 24 et au verset 13. Donc, nous allons lire, c'est Amandine qui va nous lire ce passage. Merci, Amandine.
Verset 13. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils se pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11, et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain.
Merci, Amandine. Alors, prenons le temps de préciser le contexte de cette marche vers Emmaüs pour deux hommes tristes. Jésus a été condamné et crucifié 3 jours plus tôt, et il est mort. Il a été enseveli dans un tombeau par Joseph d'Arimathée, un homme qui siégeait dans le conseil juif, mais qui n'avait pas participé aux accusations du conseil et à sa demande de condamnation auprès de Pilate. Cléopas et un autre disciple de Jésus, dont nous ne connaissons pas le nom, s'en retournent vers un village situé à 60 stades de Jérusalem où se sont déroulés ces derniers événements. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que ça fait, 60 stades. C'est ça, 12 kilomètres. Voilà, la distance qu'il leur faut parcourir est de 12 kilomètres, ce qui représente, pour un marcheur moyen, environ 3 heures de marche. Leur conversation porte sur ce qui vient de se passer. C'est un sujet tellement important, c'est même le sujet qui bouleverse les relations des hommes avec leur Créateur, le point central dans l'histoire de Dieu et des hommes. Mais nous découvrons, lorsqu'un autre marcheur les a rejoints, qu'il l'aborde avec tristesse, en escamotant la dernière et meilleure nouvelle relative à cet événement en leur possession. Nous l'avons lu. Les femmes disent que le tombeau est vide. Qu'est-ce qui empêchait leurs yeux de reconnaître celui qui était le sujet de leur conversation et de leur tristesse, de leur découragement même? C'est l'angle de vue qu'ils ont de ce qui vient de se passer, et surtout de celui qui a été crucifié. Ils ne constatent qu'un dénouement tragique et un espoir déçu. Ainsi, leur vision restreinte ne leur permet pas de reconnaître leurs compagnons de marche. Cela va permettre une relecture fructueuse des Écritures conduite par le principal sujet des prophéties, le Christ lui-même. Quelle extraordinaire leçon ! Combien nous aimerions connaître le détail de l'enseignement dispensé par Jésus lors de cette marche. On comprend pourquoi, malgré le peu de temps qui s'est écoulé depuis la condamnation de Jésus et cette rencontre, ils sont empêchés de le reconnaître. Sinon, comment auraient-ils pu profiter de cet éclairage sur les textes de la parole ? Ce voyageur a l'air bien déconnecté de l'actualité locale, celle de Jérusalem. Ils en sont surpris et Cléopas en profite pour nous livrer sa compréhension des événements et la déduction qu'ils en tirent. Jésus de Nazareth était, c'est donc du passé, un prophète certes puissant, mais mort. Leur espérance de délivrance s'en est allée, d'où leur tristesse, leur espoir déçu. Il mentionne avec peu de conviction le rapport des femmes sur le tombeau vide, sans omettre l'apparition des anges d'ailleurs. On ne sent pas bien d'enthousiasme généré par cette extraordinaire nouvelle. Est-ce qu'il n'accorde que peu de crédit à la parole féminine? Je ne sais. La réalité du tombeau vide a été confirmée par quelques disciples masculins, mais pas de rencontre avec le Christ ressuscité. Donc, nos marcheurs sont tristes et découragés. La réponse de Jésus nous aurait sûrement peu fait apprécier ce compagnon de marche, ô homme sans intelligence. Dans la version Nouvelle Bible Seconde, la traduction est « que vous êtes stupide ». Belle entrée en matière, aurions-nous continué la route avec quelqu'un qui nous traite de stupide ? Nous comprenons que l'Esprit était à l'œuvre pour leur dévoiler par Jésus lui-même ce qui, malgré leur connaissance des Écritures saintes, restait caché à leur entendement. La leçon a dû prendre un certain temps, car le Seigneur balaye la prophétie depuis la loi donnée par Moïse jusqu'au dernier prophète de l'Ancienne Alliance sur ce qui le concerne. Nous pouvons penser à bien des passages qui annoncent sa venue, sa vie, son œuvre, ses souffrances, sa mort, mais aussi sa résurrection. Leur a-t-il parlé du chapitre 53 du prophète Ésaïe ? Nous ne le savons, mais j'aime le penser. Mais ils ne font pas qu'écouter ces enseignements de celui qu'ils n'ont pas reconnu. Ils marchent aussi, et le but est bientôt atteint. Le soir approche, et la nuit va bientôt venir. Alors, ce compagnon de route va continuer seul son chemin. L'hospitalité proposée et acceptée va conduire à la révélation d'un Christ ressuscité au travers du partage du pain et de l'action de grâce qui le précède. Leur aveuglement prend fin, mais à l'instant même, Jésus disparaît. Quelle frustration ! Non, ils ne pensent même plus à manger. Ils vont reprendre la route car une nouvelle aussi importante n'attend pas. Quelle énergie donne la rencontre avec Jésus et sa révélation. Ce sera donc 24 kilomètres de marche au total, sans avoir pris de repos ni repas. La nuit est tombée, mais cela ne les arrête pas. Leur cœur brûle au-dedans d'eux depuis cette leçon d'interprétation prophétique. Comment garder pour soi une nouvelle aussi merveilleuse, maintenant qu'ils ont compris que Jésus n'est pas seulement un prophète, mais qu'il est aussi le Messie promis et annoncé depuis le début des Écritures. Il faut aller l'annoncer aux autres disciples à Jérusalem. Une autre rencontre a déjà confirmé cela. Il est apparu à Pierre. La joie remplit le lieu où se trouvent les disciples. Alors Jésus les rejoint. Pour nous aujourd'hui, que pouvons-nous tirer de ce récit et de l'expérience vécue par les deux disciples d'Emmaüs, ces deux marcheurs? Je crois que Jésus veut marcher avec chacun d'entre nous qui avons mis un jour notre foi en son sacrifice. La distance est bien supérieure à 60 stades ou 3 heures de marche. Elle est d'une vie. Pour certains, elle sera de 60, 70 ans ou plus. Mais accepterai-je ce compagnon de route lorsqu'il me reprendra sur ma stupidité, sur mes manquements, mes aveuglements? Il a tant de choses à me dire, tant de choses à me révéler au travers des saintes Écritures. Nous ne finirons jamais d'apprendre à le connaître, même si notre route est longue. Certains d'entre nous, pour les plus âgés, ont fait souvent un très long chemin avec Jésus à leur côté. C'est avec une grande humilité que je voudrais développer quelques points sur la nature, la personne de Jésus. Mais la parole nous enseigne, avec l'aide de l'Esprit, car le sujet est bien trop grand pour notre compréhension limitée, qui ne peut qu'en appréhender certaines vérités. Les disciples d'Emmaüs n'avaient pas compris la préexistence, c'est-à-dire la nature éternelle sans commencement ni fin de leurs compagnons de route. Pour eux, il était Jésus de Nazareth, né à Bethléem. Ils ne voient pas en lui celui qui est Adonai, le Seigneur. D'ailleurs, ils emploieront ce terme lors de leur rencontre après leur retour à Jérusalem avec les autres disciples. C'est un nom divin. Bien sûr, de nombreux passages du Nouveau Testament affirment cette vérité, mais aussi des passages de la prophétie parlent de cette éternité de Christ. Le prophète Michée, au chapitre 5. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Le prophète Ésaïe confirme cette éternité de Christ au chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Cléopas et son compagnon ont compris cette éternité de Christ après la révélation et la disparition de Jésus. Je pense que nous sommes éclairés tous sur cette vérité. Jésus enseignait ses disciples sur ce point quand il leur dit « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis » dans l'évangile de Jean au chapitre 8, verset 58. Vérité qui amène les pharisiens à vouloir lapider Jésus. Le point qui posait problème à ces mêmes pharisiens et autres spécialistes de la loi et des Écritures était la nature divine de Christ. Ils ne voulaient voir que son humanité. Ces deux natures, parfaitement réunies dans une même personne, sont un aspect central de la théologie relative à Christ et par la même de notre foi. Ce fut au fil de l'histoire de l'Église un point qui provoqua des divergences, source de divisions et de conflits. Pour certains, dont Arius, au IVe siècle, qui niait l'éternité de Christ et par la même sa nature divine, qui était défendue par Athanase d'Alexandrie. D'autres hérésies se sont fait jour dans la même période, tels le quichianisme et le monophysisme, qui voyaient Jésus comme appartenant à une catégorie particulière issue d'un croisement d'humanité et de divinité, une nature unique en son genre entre Dieu et homme. Cette hérésie fut condamnée et combattue au concile de Chalcédoine en 451. Les hérésies ne datent pas d'hier et ont émaillé l'histoire de l'Église. Plus proche de nous, pendant les deux derniers siècles, certains penseurs de la théologie libérale sont efforcés de nier la divinité de Christ et aussi l'inspiration divine parfaite et plénière de la Bible. si Jésus n'est pas Dieu et que la Bible est un livre comme les autres, que reste-t-il de notre foi ? L'humanité de Christ qui lui a permis de s'approcher de l'homme, de marcher à ses côtés, est pour nous une vérité plus théorique, entre guillemets, que pour nos marcheurs d'Emmaüs. Eux vivaient l'humanité de Christ au quotidien et de manière très pratique. Nous la vivons par les yeux de notre foi et avec le secours des Écritures éclairées par le Saint-Esprit. Il nous faut parler de l'incarnation de Christ qui signifie dans la chair. Cela désigne l'acte par lequel le Fils éternel de Dieu a pris sur lui-même une nature supplémentaire, son humanité, au travers de sa naissance virginale, nature humaine qu'il possède pour toujours, exempte de péché. C'est ce que met en évidence le verset 14 du chapitre 1er de l'évangile de Jean. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ou dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2 et au verset 7, « Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Je suis toujours impressionné par la totale dépendance dans laquelle s'est trouvé le Créateur de toutes choses, la parole incarnée. Celle d'un nouveau-né qui a connu le même processus que chacun d'entre nous pour venir au monde, hormis bien sûr sa conception virginale. Il a dû dépendre totalement de sa mère, puis a grandi normalement comme tous les enfants de son temps, sans être affecté par le péché, ce qui le différenciait tout de même de ses semblables. Il a travaillé de ses mains pour aider son père charpentier. Il a eu faim et soif comme nous. Il a souffert. Un point important de la nature de Christ sur lequel je voudrais mettre l'accent est le fait que de par son humanité, il a ressenti des émotions, ce qui ne peut être applicable à la nature divine. Il a été triste, il a été ému de compassion devant les conséquences du péché, la maladie, la souffrance et la mort. Nous le voyons particulièrement à la mort de son ami Lazare. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. C'est la traduction second originelle. Dans la traduction Nouvelle Bible seconde, il est intéressant de noter ce qui a été traduit à ce passage. Quand Jésus la vit pleurer et qu'il vit pleurer aussi les Juifs qui étaient venus avec elle, son esprit s'emporta et il se troubla. Puis au verset 38, Jésus, s'emportant de nouveau, vint au tombeau. La compassion la plus vraie et profonde est une des émotions qui est récurrente dans le ministère de Jésus. Nous la trouvons dans de très nombreux récits des évangiles. Celui qui, de par sa nature divine, voit au plus profond des cœurs, connaît toutes les détresses et les souffrances cachées, ne peut que souffrir avec ceux qu'il rencontre. Souffrir des catastrophes physiques, morales, humaines, en résumé, conséquences du péché. Il est souvent mentionné ce fait en ces termes. Il fut ému de compassion, même lorsqu'il n'était pas directement interpellé pour la guérison. Nous le voyons croisant un convoi funéraire, à Naïn, qui emmène le fils unique d'une veuve. Il fut ému de compassion et sa réponse est « ne pleure pas ». Nous connaissons la suite. Il ressuscite le jeune homme et le rend à sa mère. Il faut bien garder à l'esprit que Jésus est le seul être humain parfait à avoir vécu sur terre, ce qui place sa compassion bien au-delà d'une pitié passagère que je peux ressentir devant la souffrance, la détresse dans laquelle se trouve plongé un de mes semblables. Le mot grec utilisé pour décrire cette réalité intérieur propre à Jésus devant de telles situations signifie bien ému de compassion. Cela évoque bien plus qu'une pitié passagère, il décrit une profondeur de sentiments affectant au plus profond, ce qui signifie dans les entrailles. alors à la mesure de cet indicateur, il me reste du chemin pour atteindre la parfaite compassion de notre Seigneur. Je dis pour moi, on peut être ému, mais de là à entrer dans le... Voilà, pleinement, je crois que j'en suis très loin. Compassion limitée, je dirais pour moi. Un autre aspect des émotions de Jésus qui est moins mis en avant dans nos enseignements est sa colère. Il n'y a pas d'antinomie entre ces deux sentiments, la compassion et la colère de Jésus, rapportés par les évangiles au contraire. L'ouvrage de Benjamin Warfield intitulé « The Person and Work of Christ », soit la personne et l'œuvre de Christ, insiste sur ce point, je le cite. « Il serait donc impossible pour un être moral de rester indifférent et imperturbable de ce qu'il percevrait comme étant mal. » Par être moral, nous entendons précisément un être capable de faire la différence entre le bien et le mal et qui réagit à sa perception des deux de manière appropriée. L'indignation et la colère appartiennent par conséquent à l'expression même de l'être moral et ne peuvent lui faire défaut en présence du mal. La colère juste que nous pouvons qualifier de saine et parfaite de Jésus n'a rien à voir avec la colère qui peut m'habiter, motivée par toutes sortes de mauvaises raisons, jalousie, orgueil et autres. Pour Christ, c'est même une évidence, donc d'être en colère devant le mal et sa manifestation dans les souffrances, les maladies et toutes les peines endurées par les hommes et les femmes croisés durant ces 3 ans de ministère. Nous avons à l'esprit quelques moments où notre Seigneur, l'homme doux et humble de cœur, se met en colère. Dans l'évangile de Marc, lorsqu'il demande dans la synagogue s'il est permis de guérir un homme ayant une main paralysée, à ceux qui voulaient l'accuser de violer la loi en ce jour de sabbat, il écrit « Alors, promenant ses regards sur eux avec colère, navré de les voir si obtus. » Il discernait la méchanceté de leur cœur qui voulait le faire mourir. Le problème de l'homme paralysé ne les intéressait pas. Un autre moment où sa colère nous est rapportée, lorsqu'il fait un fouet avec des cordes pour chasser les vendeurs d'animaux destinés au sacrifice et les changeurs de monnaie installés au sein même du temple à Jérusalem. Il renverse les tables, il met par terre tout le matériel de ses commerçants. L'expression « marchand du temple » est même passée dans le langage courant. Sa colère est motivée par le profit, l'esprit mercantile qui s'insinue jusque dans ce que Dieu a instauré par la loi au moyen des sacrifices. Saine et sainte colère. En Matthieu 18, il prononce une condamnation sans appel concernant ceux qui causent la chute des petits, des plus humbles, des plus vulnérables. Il utilise l'exemple d'un enfant, mais qui ont mis leur foi en lui. Pour de tels hommes, il serait avantageux qu'on leur mette une meule de moulin au cou ou qu'on les noie au fond de la mer. Ce passage doit m'interpeller, car combien de fois n'ai-je pas pu être l'occasion, une occasion de chute par mon comportement ou mes paroles pour quelqu'un qui est jeune dans la foi. Je n'ai abordé, ou plutôt effleuré, que peu le thème. Connaître Christ toujours plus. Je vous encourage tous à l'étude du livre de Wayne Cordero, Jésus tout simplement, que nous avons choisi pour nos groupes de quartier, qui a pour but de nous ramener à l'essentiel, à laisser la parole nous enseigner sur la simplicité de la foi en Christ pour qu'il règne un peu plus chaque jour en nous. Oui, j'ai beaucoup à apprendre sur celui qui est parfaitement Dieu et parfaitement homme, de nature inséparablement unie, sans mélange, ni perte d'identité distincte, dans une même personne pour toujours. Voulons-nous le laisser cheminer avec nous pour la route qu'il nous reste à parcourir chacun ici présent? Il a tant à nous dire sur ce qu'il est, sa déité, son humanité, ses compassions, son amour et sa patience envers nous. Je laisserai pour conclure ce passage en Matthieu, chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos, car mon joug est bon et ma charge légère. Amen.